Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Madame Weil a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel.
Je déclare ouverte la séance solennelle du Parlement européen. C'est un très grand honneur que vous m'avez fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen. Pour la première fois, en effet, dans l'histoire, dans une histoire qui les a vus si souvent divisés, opposés, acharnés à se détruire, les Européens ont élu, ensemble, leurs délégués à une assemblée commune qui représente aujourd'hui, dans cette salle, plus de 260 millions de citoyens. Pour relever les défis auxquels l'Europe est confrontée, c'est dans trois directions qu'il nous faudra l'orienter. L'Europe de la solidarité, l'Europe de l'indépendance, l'Europe de la coopération.
Petit rappel historique, c'était le 17 juillet 1979, un jour historique pour l'Europe. Simone Veil devenait la première femme à présider le Parlement européen, élue au suffrage universel dans une Europe en pleine construction. Elle fut députée pendant plus de 13 ans et fit trois fois campagne en tant que tête de liste en 1979, 1984 et 1989. Au-delà de son engagement politique, Simone Veil incarne une certaine idée de l'Europe, celle d'un continent complexe, uni dans la diversité, qui se souvient du passé pour construire son avenir. Quel a été l'impact de son action au sein de la communauté européenne? L'Union européenne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, correspond-elle à ses idées? Bonjour Pascal Johannin.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Alors, il faut tout d'abord nous expliquer comment naît le sentiment européen de Simone Veil.
Il naît très probablement qu'en cours de la Seconde Guerre mondiale, quand on a vu en effet s'affronter les nations européennes, et au sein de cette guerre mondiale, ce que l'Allemagne à l'époque a fait envers la communauté juive. Il faut savoir que Simone Veil a été victime de cette guerre, elle en a souffert, et elle a compris à ce moment-là qu'il fallait arrêter absolument ces confrontations qui menaient l'Europe à la ruine, et elle n'a cessé de se battre pour la coopération franco-allemande dans un premier temps, la coopération européenne qui est née 5 ans juste après la fin du second conflit mondial avec la déclaration de Robert Schuman. Et Simone Veil incarnait en effet cette volonté d'en finir avec la guerre, avec l'opposition entre les nations, et elle l'avait vécu dans sa chair, avec la perte de sa famille, elle-même en étant déportée. Et donc le symbole qu'elle a représenté lorsqu'il y a eu cette première élection au Parlement européen au suffrage universel direct en 79, et le premier symbole, comme vous l'avez dit, le deuxième, c'était que la première femme a présidé le Parlement européen.
Oui, c'est un symbole magnifique, symbole de réconciliation, symbole qu'il y a la possibilité pour les femmes et les hommes de faire la paix. Pascal Johannin, comment ce choix a-t-il été fait? C'est Valéry Giscard d'Estaing qui a incité Simone Veil à se présenter. Est-ce que vous pouvez nous raconter les coulisses de ce choix?
Mais si vous voulez, le président Giscard d'Estaing est un président très européen, et c'est à son initiative et celle de ses collègues, mais à l'époque, qu'en effet le Parlement européen, qui existe depuis 1950 et qui avait vu en effet un certain nombre de gens, députés nationaux, représenter leur pays au Parlement européen, le président Giscard d'Estaing décide en effet que ces élections européennes maintenant seront au suffrage universel direct. Donc c'est un vrai progrès, puisque c'est en effet les citoyens qui sont appelés à élire leurs représentants. Et le choix de Simone Veil, il faut savoir qu'elle avait été ministre du président Giscard d'Estaing et qu'elle avait mené un combat qui était un combat très important pour le droit des femmes à l'époque, le droit à l'avortement, dans une assemblée nationale qui était très masculine elle aussi. Il faut se souvenir qu'à ce moment-là, il y avait énormément d'hommes en politique et très peu de femmes, et qu'elle avait mené ce combat avec courage, dignité, qu'elle était devenue un symbole. D'ailleurs, on parle toujours de la loi Veil aujourd'hui, 50 ans après.
Oui.
Et donc, cette personne incarnait quelque chose, et le président Giscard d'Estaing lui a donc proposé, comme elle était très européenne, c'était une amie de la Fondation Robert Schuman, hein, Simone Veil, comme elle était très européenne, elle a incarné cette figure pour ses premières élections au suffrage universel direct.
Et alors, comment s'est déroulée cette campagne? Est-ce qu'elle était traitée sans ménagement comme une femme politique, ou bien ses adversaires avaient-ils un certain respect malgré tout pour cette femme, Pascale Johannin?
Alors, ça s'est pas imposé naturellement. En France, oui. En France, le contexte politique de l'époque fait que Simone Veil, comme je vous l'ai dit, avec la loi qui portait son nom, le président Giscard d'Estaing, etc. Donc, elle représentait la France qui est un pays fondateur. Hein, je rappelle que c'est la déclaration Schuman, dont du ministre des Affaires étrangères français des années 50, qui a porté ce projet. La France était entendue. Mais bien entendu, il fallait convaincre les 9 autres États qui étaient autour de nous. Et c'est vrai que ce symbole de Simone Veil, la réconciliation, la fin de la guerre, le plus jamais ça, etc., était tellement fort que les autres candidats n'ont... Elle s'est imposée, alors pas au premier tour, hein, quand même, il faut bien le dire, mais au deuxième... Ça a été une victoire qui a été qui a été plus que symbolique. C'était vraiment asseoir une personnalité forte pour cette première élection. Il fallait qu'en effet, on ait à la tête du Parlement européen quelqu'un dont on soit, à laquelle on puisse s'identifier. Et cette femme permettait de s'identifier pour ceux qui avaient connu la guerre, pour ceux qui étaient pour celles qui étaient des femmes, pour celles qui étaient peut-être dans le droit, puisque vous avez rappelé que Simone Veil, toute sa carrière avant d'entrer en politique, c'était la magistrature, et donc elle incarnait cette justice qu'on attend en effet des hommes et des femmes politiques, cette dignité, cette probité aussi, voilà.
Et alors, justement, s'il fallait définir le positionnement politique de Simone Veil, que diriez-vous, Pascale Johannin, centriste, femme de droite sociale? Enfin, c'est à vous de trouver le terme qui vous convient.
Alors, Simone Veil est une personnalité qui était justement, parce que pas marquée politiquement fortement, tout en étant une femme de centre-droit, comme Robert Schuman, était une personne qui permettait de discuter, de créer des passerelles entre les gens raisonnables, on va dire des deux camps politiques, la droite et la gauche. Et parce que, on va dire, centriste, centrale, libérale un peu, elle venait de ce parti qui s'appelait Libéral, hein,